les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Chronique juridique avec Nadia Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
Bonjour, Mario.
Alors, la fin d'un gros procès pour meurtre.
Oui, un procès où la dame était accusée d'avoir finalement enlevé la vie à son conjoint a été acquittée suite à une déclaration qu'elle a faite aux policiers. En fait, une déclaration qu'elle a faite aux policiers sans savoir qu'ils étaient policiers, puisqu'ils ont utilisé une technique que l'on appelle « Mr. Big », c'est-à-dire qu'un policier sous filature va rentrer dans la vie d'une personne qui est ciblée, suspecte. Généralement, on tente de justifier ce type d'enquête-là qui est assez particulière, au mieux devant les tribunaux pour faire accepter ce type de déclaration-là. Et quand la personne, le policier, est sous filature, s'intègre donc dans la vie du suspect, tente de créer un lien de confiance et va même tenter de commettre certains crimes avec cette personne-là ou lui en faire commettre, évidemment dans un cadre qui est supervisé par les autorités. Donc tout ça est contrôlé et on amène finalement cette personne-là à confesser son crime pour mettre ça en preuve. C'est ce qui se serait passé dans ce dossier-ci, mais la déclaration a été vue déclarée inadmissible en preuve par le juge. Une décision là, de plusieurs pages, Mario, dans cette affaire-là, pour justifier finalement ce retrait, en fait, de l'inadmissibilité de la preuve sur la base d'un abus policier, selon le juge. Alors, quand même, une grosse affaire se termine par un acquittement, puisque plus de preuves ne seraient suffisamment solides pour démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'elle avait bel et bien commis ce crime-là. Mmh.
Dossier de remise en liberté, une deuxième demande?
Oui, Mario, excuse-moi, Vincent, mon Dieu, Mario et Vincent, je vous mélange, c'est vendredi. Oui, effectivement, une autre demande de remise en liberté, je voulais en traiter parce qu'il s'agit d'un droit fondamental. Je rappelle aux gens qu'en criminel, la liberté, c'est ce qui prime avant tout. L'incarcération de quelqu'un, là, c'est vraiment un dernier recours, là. C'est ce qu'on va suivre. Si, effectivement, la couronne, par exemple, démontre à l'enquête tout caution, donc l'étape après qu'une personne soit arrêtée, détenue et qu'il y ait opposition à sa remise en liberté avec simplement des conditions que l'on signe, donc une promesse de comparaître ou qu'on reçoit par la suite une date de cours, on a cette opportunité-là de s'adresser à un juge pour demander notre remise en liberté. Mais qu'en est-il lorsque ce juge-là la refuse? Ben, le dossier ne meurt pas dans l'œuf. Cette personne-là qui reste détenue normalement jusqu'à la fin des procédures pourra, entre la fin de la procédure et cette décision-là, ou aller en appel de la décision du juge de la Cour du Québec. Et là, il faudra justifier en quoi, en droit, il ou elle aurait erré dans sa décision. L'autre option est donc d'aller aussi en enquête qu'on appelle aujourd'hui Myers, suivant une décision de la Cour suprême, qui permet aux gens, à chaque 90 jours, de réévaluer la possibilité de les remettre en liberté. Mais généralement, pour aller plaider ce type de dossier-là, il nous faut ce qu'on appelle des éléments nouveaux dans l'affaire. Donc, que ce soit ou dans le développement d'enquêtes ou d'informations qu'on aurait pu recevoir du côté de la défense, ou ça peut être aussi un développement dans la vie de l'individu. Si, par exemple, à la première étape, on n'avait pas un plan de sortie aussi solide et qu'aujourd'hui, on peut aller un peu plus loin en suggérant plus de conditions, par exemple, en mettant en place, pour ceux qui le peuvent, on l'a déjà entendu, par exemple, les bracelets électroniques, ben, on pourrait en faire la demande à chaque 90 jours. Et là, cet individu est emmené à cette étape-là et on verra quels seront les résultats. Mais on voit qu'on essaie dans notre système de justice criminelle d'avoir un roulement pour permettre aux gens de recouvrir leur liberté dès que le système peut le permettre.
Et tu veux nous parler du décès d'une sans-abri. C'est le deuxième cas là, en une dizaine de jours.
Ouais, je voulais revenir là-dessus parce qu'on entend beaucoup de commentaires un peu partout, surtout sur la façon dont notre société réagit face à ce type de situation-là. Et oui, j'y vois un lien avec le droit, puisque ces sans-abri-là sont des gens, malheureusement, qui se retrouvent marginalisés, donc en marge de la société, avec peu de moyens, évidemment, puisqu'ils ne sont même pas sans toit, un des éléments de base pour tout être humain. Alors, on voit qu'on vit des difficultés, on a la réalité qui est divers, mais au surplus, on peut critiquer parfois comment la ville de Montréal va prendre en charge un groupe en particulier. Et là, je parle des Autochtones, entre autres. Et je voulais en parler. Le lien avec la justice, pour moi, est évident. Puisque ces gens-là qui se retrouvent déjà, comme je mentionnais, en position finalement de faiblesse ou à tout le moins où l'autorité devient, à mon avis, encore plus grande et plus forte face à ces gens-là. Et entre autres, on peut parler des règles sanitaires, des couvre-feux qui n'ont pas pu être respectés, des gens qui n'avaient pas de lieu où aller pendant le confinement total où on devait rester chez nous. Donc, toutes ces étapes-là et ces gens-là qui ont pu, par exemple, se retrouver dans le système juridique ou pénal en ayant des étiquettes ou en se retrouvant un criminel parce qu'ils se voient accusés d'entrave police, parce qu'ils ont étiquette, parce que, par exemple, ils vont uriner dans les ruelles. On peut avoir des étiquettes pour ça. Donc, tous ces types d'infractions-là qui ramènent ces gens-là dans le système et remontent dans le système juridique. Puis après ça, qu'ils retrouvent finalement la même position qu'ils avaient avant de rentrer dans le système juridique, donc de se retrouver encore une fois à la rue et réaccuser. On essaye de briser un peu cette roue-là. Et la réalité, c'est qu'il y a une grande majorité de gens qui sont à Montréal des Autochtones, de communautés autochtones, et qui vivent à eux seuls et spécifiquement, et c'est démontré par des études, des problématiques et des particularités qui nécessitent, à mon avis, une attention plus grande et peut-être une écoute plus grande à ces communautés-là pour tenter de les aider à sortir de cette roue-là qu'est le fait d'être sans-abri, mais aussi d'entrer dans le système judiciaire criminel. Oui, il y a des Blancs, oui, il y a des Noirs, oui, il y a des gens de toutes les nationalités, mais de créer des zones pour eux, ça peut être des endroits rassurants. Je le vois en DPJ quand je pratique dans le Nord, je le vois avec la communauté ici autochtone à Montréal, qui d'ailleurs est surreprésentée malheureusement dans notre système juridique et carcéral. Ça aussi, je tiens à mentionner des statistiques qui existent. Et c'est sous cet angle-là qu'on va tenter de les aider plus spécifiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on lâche lousse ou qu'on n'aide pas les autres individus. Ça ne veut pas dire non plus qu'on crée une espèce de ségrégation, qu'on essaie de créer des ghettos. Bien au contraire, ce sont des communautés qui nécessitent ce genre d'approche-là. Et d'ailleurs, je tiens à souligner ici, en terminant, en ce beau vendredi, entre autres, que la Cour municipale de Montréal a créé comme programme en criminel pénal, là, ce que la Cour peut avoir en termes d'accusation, un programme pour les communautés autochtones. Et ce que ça change, c'est évidemment la loupe sous laquelle on va regarder cet individu-là si on se retrouve sous sentence. Et il y a des arrêts de la Cour suprême, dont Gladue, qui en font déjà mention. Et je tiens à le mentionner, c'est pas un traitement de favoritisme où on va leur permettre à eux de s'en sortir versus d'autres non. C'est pas du tout ça. C'est juste de le faire avec cette ouverture-là et cette connaissance des traumas que ces communautés-là ont vécu et vivent toujours avant d'avoir un impact dans leur vie, en espérant que ça ait des conséquences positives.
Merci, Nada. Bonne fin de semaine.
Merci, messieurs. Bon week-end à lundi.